Les Gazettes ont fait les comptes, ce sont donc près de 500 livres qui sont publiés ces jours-ci pour la deuxième rentrée littéraire de l'année. Pour les lecteurs que nous sommes tous dans l'équipe, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce qu'a priori ça fait 500 raisons de se réjouir. On va pas se voiler la face, hein. Quand même on sait qu'au final il y en aura beaucoup moins. Mais dans les semaines à venir, on va avoir l'occasion de parler des livres qui nous ont arrêtés dans cette rentrée littéraire. Et le premier en date s'intitule « Nous ne verrons jamais Vukovar ». Il est publié aux éditions Philippe Ray. Son auteur est notre invité aujourd'hui, Louise Lambrix. Bonjour madame et bienvenue.
Bonjour.
Un livre composite, un livre au carrefour de l'essai, du dialogue, de l'écriture poétique, du journalisme, de la philosophie, de l'histoire. Un livre aussi de polémique intellectuelle, très dur parfois. Tous ces registres, toutes ces formes pour essayer de cerner la guerre qui a débuté dans les Balkans il y a une quinzaine d'années. Pour essayer, j'ai l'impression, de cerner des pourquoi et des comment qui 15 ans après vous semblent à vous encore radicalement, presque métaphysiquement incompréhensibles. Vous ai-je mal lu?
Oui. Non, je ne dirais pas que c'est incompréhensible, justement. Moi, j'ai plutôt, je dirais que depuis 15 ans, au fond, je ne décolère pas. j'ai eu le sentiment quand même, depuis le début, d'une espèce de langue de bois et de refus de voir ce qui se passait là-bas. Que d'une certaine façon, ce refus de voir n'a cessé de se déplacer, mais qu'il est demeuré. Y compris, à des degrés divers, évidemment, de façon très très solide, tant que François Mitterrand était au pouvoir. Les choses ont changé avec l'arrivée de Jacques Chirac, c'est vrai, et avec la publication aussi d'un certain nombre de livres. Mais enfin, profondément, ce qui me met très en colère, et au fond ce qui a été à l'origine de ce livre, c'est le sentiment que finalement les Français n'ont toujours pas compris ce qui s'était passé là-bas. Alors, les choses n'ont pas été aussi rationnelles que ça. Disons que ça a été déclenché par la lecture d'un papier de Peter Handke qui m'a mise en fureur de nouveau sur le procès de Milosevic. Enfin, comme j'avais suivi ses prises de position, je connaissais en partie ses positions, mais au fond, je n'avais pas compris pourquoi. Et je me suis posé la question, ce qui est un peu...
Reconsidérer le rôle de la Serbie, pour le dire en un mot, hein, pour donner la tonalité des écrits de Peter Handke sur ce...
C'est-à-dire que bon, Peter Handke, oui, a publié en 96 un livre qui demandait justice pour la Serbie, après Srebrenica, après Vukovar, il n'avait pas bougé, il connaissait bien la Yougoslavie, pourquoi tout d'un coup il bouge à ce moment-là, disons. Et pour prendre ce parti-là, et pour considérer que les Serbes sont des victimes, hein. Alors, tout ça pose beaucoup de questions, et en fait, j'ai commencé au fond par la littérature, puisque c'est mon champ. Hein. Et donc, j'ai relu quasiment toute l'œuvre de Peter Handke. Et là-dessus, je dois dire que j'ai été stupéfaite, parce qu'au fond, j'ai découvert quelque chose que personne, alors que Peter Handke a quand même été l'écrivain chouchou de toute ma génération, considéré comme ça, comme un révolté dans les années 70. Un révolté, quelqu'un qui souffre, on sent bien ça dans sa voix. Mais pourquoi ? Et au fond, ce qui est très intéressant, c'est que les clés sont dans son œuvre. Et que, à condition de savoir lire, à condition d'entendre ce qu'il ne dit pas, mais qui est là, quand même, dans le texte, on découvre tout simplement, au fond, ce mécanisme qui a été mis en évidence par Freud et qui est illustré par la lettre volée d'Edgar Poe, qui est vraiment la lettre volée, c'est-à-dire c'est le truc qu'on vous met sous le nez, et qu'on ne voit pas. Et finalement, ce qui est tout à fait... Je m'attendais pas du tout à ça, parce qu'en fait, au début, je m'étais dit, quand j'ai découvert ça chez Handke, que je me suis dit, je vais écrire un truc sur Handke. Et puis, en fait, dans la foulée est venue toute la suite. C'est-à-dire, au fond, tout un questionnement aussi, qui est mon questionnement, qu'est-ce que c'est que l'inspiration, pourquoi une œuvre surgit à un moment donné plutôt qu'à un autre, il y avait d'autres lectures. Et tout ça, finalement, s'est tricoté... pour donner aussi ma lecture de la guerre qui, au fond, répond exactement à ce mécanisme-là. C'est-à-dire, on nous met aussi un truc sous le nez dans les médias, à la télévision, et on dit ça n'est pas ça.
On va venir à cet aspect. Sur la question de l'écriture et de Peter Handke, qu'est-ce que l'inspiration, disiez-vous, qu'est-ce que la responsabilité aussi pour un écrivain, pour
absolument.
La littérature, la responsabilité au sens... Le plus fort et le plus politique du terme.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Il n'y a pas d'exception de littérature dans ces matières-là.
Ah non, C'est-à-dire
cette idée,
parce que c'est une idée quand même qui est très répandue chez un certain nombre d'écrivains et de critiques, et notamment, justement, il y a des gens qui prenaient la défense de Handke de ce point de vue, l'idée que la littérature nous exonérerait de quoi que ce soit, pour moi, je trouve que c'est une idée ignoble. Hein. C'est-à-dire que quand on a voix au chapitre au fond, et Handke, en effet, moi au fond, si je il me met tellement en colère, c'est à la fois parce qu'il est écrivain, parce qu'il a l'audience qu'il a, c'est quelqu'un de très célèbre, et il profite de cette célébrité pour au fond semer le déni, parce que ce n'est pas autre chose, et que s'il veut prendre position dans ce que je fais finalement aujourd'hui pour la première fois, ma grande surprise, on va dire, parce que c'était pas du tout mon but. S'il le fait, alors il faut qu'il travaille quand même. Il y a un certain nombre de choses qui ont été publiées. Vous savez que depuis le début de la guerre de Yougoslavie, il y a plus de 1000 livres qui ont été publiés dans le monde. Alors, je ne les ai pas tous lus. Hein. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un travail immense qui est fait chez nous, mais aussi ailleurs, en Angleterre, aux États-Unis, etc., au Canada. Donc, on lit. Hein, on commence par lire les trucs. On ne dit pas à la fin de son texte, comme il le fait dans son article sur Milosevic, qu'il n'a pas lu le mémorandum de l'Académie serbe en entier. Je veux dire, on ne fait pas ce genre de choses, ou alors on se tait.
Comment vous l'expliquez, Louise Lambrix, cette exception de littérature qui fait que, bon, on peut ne pas lire et écrire au nom du fait qu'on est dans le registre d'une écriture littéraire et prendre des positions, du coup, sur des sujets politiques, historiques graves?
Ça, je pense que c'est la mythologie de la littérature, hein. C'est-à-dire, parce que finalement, je transgresse beaucoup de tabous dans ce livre, ça j'en suis bien consciente, y compris ceux dans lesquels j'ai été élevée. C'est-à-dire que c'est comme si on raconte, on entend ça partout, tout le temps, que l'écrivain est libre, qu'il est libre d'écrire ce qu'il veut, etc. Bon, quand on a, la liberté, ça n'est pas si simple. On est en fait très déterminé par des tas de choses dont on ne veut rien savoir. C'est comme ça. Moi, je pense qu'en effet, on est libre d'écrire les romans qu'on a envie d'écrire. D'ailleurs, d'une certaine façon, je ne conteste pas la liberté de Handke d'écrire ce qu'il écrit. Ce que je dis dans mon livre, il est libre d'écrire ce qu'il écrit, mais je suis libre aussi de l'attaquer et de le lire. Ce que peu de gens ont fait, finalement. Je l'attaque au nom justement de ses écrits. Mais la mythologie, si vous voulez, qui est bon aussi la mythologie universitaire, c'est que l'écrivain, au fond, est une espèce de personnage inspiré.
Le mage, le prophète.
Qui oui, enfin,
au-delà des faits.
Il vient de nulle part. Il est. C'est très marrant d'ailleurs. Les écrivains se présentent aussi comme ça, hein. Comme je veux dire, ils n'ont leur génie leur vient de voilà. On ne sait pas d'où.
En même temps, on sait, il y a des travaux de sociologie de la littérature extrêmement précis qui essayent de s'interroger sur la conjonction entre de grandes œuvres littéraires et d'atroces idées politiques. Et on sait très bien que le génie en littérature ne trouve pas nécessairement de correspondance dans un certain nombre de valeurs humanistes, par exemple.
Ah non, bien sûr.
Il n'y a pas cette correspondance.
On ne fait pas de la littérature avec des bons sentiments, c'est ça aussi. Mais la question pour moi, c'était plutôt de savoir, parce que au fond, j'avais, pour tout vous dire, j'avais un projet il y a 15 ans, tout à fait à l'opposé de ce que j'ai découvert là-dedans. C'est-à-dire, en fait, j'étais très très énervée justement par l'enseignement traditionnel, l'écrivain, l'homme et l'œuvre, et qui met d'une façon très anecdotique en rapport ce qu'on écrit et la vie biographique. C'est en général complètement anecdotique. Et moi, ce que j'avais fait quand j'avais écrit Journal d'Anna, ça n'avait rien à voir avec ça. Et donc, je voulais écrire un livre dont j'avais déjà le titre, ça s'appelait Genèse au pluriel. Je voulais interroger des écrivains, je l'ai fait d'ailleurs. J'ai interrogé Gérard Massé, Olivier Rollin, Ludovic Janvier, enfin des gens que j'aime bien, dont j'aime bien l'œuvre, etc., pour savoir ce qu'ils en pensaient de cette affaire-là, d'où ça venait, comment naît un livre ? J'avais cette question-là. Et donc, j'allais voir chez les autres pour voir, parce qu'au fond, je trouve que c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe aussi chez les autres. Et puis, au fond, les conversations qu'on a eues n'ont pas vraiment répondu à la question que je me posais. Et elles étaient intéressantes, chacun avait sa façon de voir, mais au fond, ça ne répondait pas à ma question à moi. Et ce qui est très marrant, c'est que en faisant ce travail sur Hanke, j'ai trouvé la question pour moi, si vous voulez, parce qu'on pourrait se demander au fond pourquoi je m'acharne. Mais finalement, quand vous lisez l'ensemble,
au début.
Oui, mais quand vous lisez l'ensemble, vous voyez très bien que finalement, Hanke, ben, c'est un cas parmi d'autres, qui a David Alba-Ahry, qui a le livre de Gérard Wajsman que j'adore et que j'ai lu et qui au fond m'éclaire aussi.
Il y a des débats avec Milner aussi, hein, sur le versant des idées.
Oui, oui, absolument. Bon, parce que c'est vrai que les quatre lignes qu'il a sur les Balkans m'énervent beaucoup, vu qu'il parle de déni et vu qu'il parle de la même chose que moi. Donc,
normalement, voilà. Vous devriez vous entendre.
Ben, normalement, sauf que sa construction, à mon avis, justement, ne fait pas la part du fait que voilà, c'est toute la question du comparable, du pas comparable, qui n'est quand même pas tranché aujourd'hui.
Propos très dur, hein, très vif sur la politique humanitaire comme politique de compromis et politique qui vient pallier dans cette question-là un manque de principe radical.
Moi, je vais plus loin. C'est une politique de complicité. Et là, j'apporte comme preuve une citation qui a été dite publiquement par Bertrand Kouchner dans une émission fin novembre 91. Où il a parlé en duplex avec le ministre serbe des Affaires étrangères, Jovanović, et cette phrase, parce que moi j'assistais à cette émission, au moment de la chute de Vukovar, cette phrase m'a à l'époque absolument scandalisée, c'est-à-dire on comprenait qu'il se mettait d'accord avec ce ministre pour créer finalement des couloirs humanitaires dans les régions qui étaient proposées par le gouvernement serbe. Cette phrase, c'est pas moi qui l'ai dite, c'est lui. Et je me suis interrogée, je m'interroge toujours sur le sens de ce que disent les gens. Et donc,
alors, quelle était cette phrase, pour le dire clairement?
Bah, écoutez, j'ai pas mon livre sous les yeux, mais c'était « Bonsoir, monsieur le ministre, nous nous sommes vus il y a quelques jours à Dubrovnik, et vous nous avez proposé de travailler dans certaines régions de Slavonie occidentale, et nous allons le faire, et puis blablabla, et continue. »
Complicité ou compromis par rapport à des enjeux qui sont d'une intervention humanitaire d'urgence, avec les limites du genre qu'on connaît, qui sont bien expliquées. Ne rien faire ou faire dans des contextes extrêmement difficiles, c'est la problématique.
C'est une question d'interprétation. À l'époque, cela fait plus d'un an que la Croatie essaye de sortir du régime communiste, qu'elle s'est dotée d'une constitution, qu'elle cherche à s'orienter vers les démocraties, ce qui est d'ailleurs une répétition dans son histoire, puisqu'elle avait déjà essayé de changer le système des alliances sous la Deuxième Guerre mondiale. Et comme vous savez, j'avais écrit j'avais fait un travail historique autour de cette question. Donc, elle essaye de rejoindre notre camp. Tudjman nous appelle à l'aide en juin 91. On a vu le document sur la BBC. Il cherche à rejoindre le camp des démocraties occidentales. Et nous, et ça c'est ce que M. Slaman ne prend pas en compte, c'est notre reconstruction de l'histoire. Hein, c'est-à-dire que pour nous, dans notre reconstruction, tous les Serbes sont des résistants, tous les Croates sont des ustachas, c'est d'ailleurs le leitmotiv de la propagande serbe, et c'est sur cette reconstruction qu'en tout cas, en apparence, se prennent les décisions, parce qu'il y a certainement aussi des éléments souterrains qui m'échappent, mais en tout cas, c'est ça qui fonctionne, et c'est ça qui va fonctionner sur le terrain. Quand Bernard Kouchner est un homme dont je dirais que c'est certainement quelqu'un qui est plein de bons sentiments. Hein. On n'arrête pas de voir, enfin on sait que l'enfer en est pavé. Et il écrit un livre il n'y a pas très longtemps, Les soldats de la paix, où il dit encore « Les Serbes, nos alliés contre le nazisme ». C'est quand même extraordinaire de dire encore ça aujourd'hui. D'abord, moi, je pose la question, est-ce que la France a lutté contre le nazisme? Jusqu'à présent, ce que j'ai pu voir des reconstructions historiques et de tout le travail qu'on a fait, c'est que la France a lutté contre les Allemands, oui, oui, contre l'occupant. Enfin, avec le nazisme, elle a quand même pas mal collaboré, que je sache. Alors, c'est pas Mitterrand qui le reconnaît, c'est Jacques Chirac. On le reconnaît 50 ans après. Alors moi, mon propos, c'est de dire, Il faut pas attendre 50 ans pour reconnaître, parce qu'aujourd'hui, la jeune génération des Balkans ne se reconstruira jamais si nous, en Europe, et nous, en France en particulier, nous ne reconnaissons pas ce qui s'est passé. Et si j'ai écrit ce livre, c'est pour dire, au fond, la façon dont moi, je reconnais les choses.
Complicité, pour Bernard Kouchner, Louise Lambrix, c'est quand même un terme extrêmement difficile quand on sait, comme on dit, d'où il parle au moment où il parle. Mais... c'est-à-dire devoir gérer aussi une situation humanitaire dans un contexte encore plus large où il n'y a pas d'intervention véritable. Donc c'est pour ça que je vous repose la question.
Je suis
complicité
d'accord.
Ou, bon,
moi,
promis.
Écoutez, la question, est-ce que... La question, elle est plus profonde que ça. Est-ce qu'un État a une politique humanitaire? Hein? Moi, je n'en crois rien. Un État, c'est un État, il a affaire de la politique, et quand il s'empare de l'humanitaire pour masquer la politique qu'il fait, ben voilà, c'est un masque.
À méditer au lendemain du raz-de-marée. On vous retrouve dans une quinzaine de minutes, Louise Lambrix. Il est 8h sur Lambrix, suite de notre entretien maintenant. Nous ne verrons jamais vu Kovar aux éditions Philippe Ray. C'est le titre de votre dernier livre. Je disais tout à l'heure en commençant cet entretien que c'est un livre composite, on va y venir, qui propose aussi un certain nombre de réflexions très fortes d'ordre philosophique sur la philosophie de l'histoire. L'histoire se reproduit. Comment faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas à l'identique, comme ce fut le cas dans les Balkans il y a une quinzaine d'années, alors qu'on avait dit, selon l'expression consacrée, plus jamais ça, violence, guerre, épuration ethnique. Pourquoi l'histoire Pourquoi l'histoire se reproduit-elle?
Alors bon, la lecture que je propose est une hypothèse. Encore pour éviter que l'histoire se reproduise, faut-il en avoir une lecture de l'histoire. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, comme vous savez, dans un devoir de mémoire. Mais ce qui est intéressant, on a beaucoup parlé des commémorations qu'on allait commémorer en 2005. On n'a pas parlé de Srebrenica qui s'est produit il y a exactement 10 ans, de la paix de Dayton qui est aussi aura 10 ans en 2005. Donc au fond, on a la mémoire qu'on a envie d'avoir. On sélectionne les événements qui ne fâchent pas et qui vont servir la gloire de l'État et des uns et des autres. Et on ne va pas commémorer, en revanche, ce qui pourrait fâcher. Or, moi, je pense que, puisque vous me demandez, au fond, vous me dites qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça ne se reproduise pas, ben, moi, j'ai une hypothèse. À partir de cette lecture, c'est-à-dire qui est une lecture, au fond, qui met en série un certain nombre d'événements et qui les compare à ceux de la Deuxième Guerre mondiale, comme une espèce, ce que je montre, au fond, c'est vraiment ça qui m'apparaît en cours de travail, parce que vous dites, c'est en effet un livre, j'en ai écrit 6 versions, hein, donc c'est quand même pas... Ça a l'air très simple, on lit quand même comme ça, mais bon, c'est en effet un gros travail.
Non, c'est une écriture très élaborée. Hein.
Ouais. Et donc, je mets en série comme ça, comme une phrase, en effet, qui se répète, et je pose sur le modèle de la question de la lettre volée et du déni qui engendre la répétition, dit au fond, quel est le déni qui est au cœur de cette affaire-là? Eh bien, le déni, c'est quand même la complicité de la Serbie à l'extermination des Juifs. Il y a aujourd'hui des institutions juives qui vont fêter en Serbie le fait que les Serbes n'ont jamais rien fait aux Juifs. Malheureusement, ça n'est pas le cas. J'apporte les preuves de ça. Je pense qu'il est question de savoir que... La Serbie a été en 1942 le premier pays Judenfrei. Nous avons publié, je dis nous parce que c'était avec mon mari qui est mort publié en 1993 un livre sur le nettoyage ethnique qui reprenait un certain nombre de textes de cette idéologie qui malheureusement revenait au pouvoir, qui était ignoré des Français parce que ça n'était pas traduit. Je pense que c'est un livre qui a été décisif pour Jacques Chirac, par exemple, qui a répondu.
Et Mirko Grémec, ouais. Envoyé largement, et Chirac est le seul à avoir répondu, dites-vous.
Absolument,
hein.
Absolument. Et donc, comment faire pour éviter que ça se reproduise? Eh bien, je pense qu'il faut travailler sur l'histoire, ouvrir les archives, lever les dénis chez nous,
et comparer,
mais chez eux.
Et comparer.
Et comparer, absolument.
Alors, quel est l'enjeu de la comparaison? Vous parliez des camps. Je décrivais ce qui s'était passé il y a 15 ans. Vous avez rajouté dans ma description les camps dans les Balkans. Référence évidente au camp d'extermination de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se joue dans cette obligation à comparer, là encore, du point de vue de la philosophie de l'histoire et de cette idée qu'il faut éviter que l'histoire se répète?
Écoutez, ça c'est vraiment un choix qui est qui n'a toujours pas été fait. Moi, il y a vraiment ou bien on considère que la Shoah est quelque chose qui restera à jamais incomparable. Pour moi, de mon point de vue juive d'origine convertie, déni, répétition, etc. dont je donne les repères là dans ce livre pour de mon point de vue, c'est inadmissible. Ça a même quelque chose de je veux dire par rapport à ce qui se passe dans les camps en Serbie, parce que vous avez vu que j'ai publié aussi en 96 un article sur la question la stérilisation des hommes. Enfin, il y a quelque chose là qui n'est pas simplement qu'on tue ou les gens ou qu'on les femmes. Il y a vraiment en effet un projet, mais un projet qui n'est pas évidemment à l'allemande, qui est à la balkanique, mais n'empêche que cette idée comme ça qu'on va stériliser les hommes croates et les hommes musulmans, qu'on va faire des enfants serbes aux femmes qu'on viole, etc., c'est, je veux dire, cette espèce de fantasme qui est quand même très proche de l'idéologie nazie, il est très actif. Je vais vous dire même une chose. Le 21 décembre dernier a été voté au Parlement, et cette nouvelle, aucun média français ne l'a relayée. Aucune chancellerie européenne n'a réagi. Le 21 décembre dernier, le Parlement serbe vote un amendement donnant aux Tchétniks le même statut que les partisans pendant la Deuxième Guerre mondiale, leur donne les mêmes droits, on crée une médaille, la médaille Ravnagora en souvenir de Mihailovic. Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on met les collaborateurs au même rang que les résistants. Et personne ne bouge. Eh bien, tant qu'on en sera là, malheureusement, il n'y a aucun espoir que ça s'arrange.
On poursuit notre débat et notre interrogation, Louise Lambrix, en votre compagnie. Dans quelques instants, il est 8h31 depuis quelques secondes. On revient sur un point avant le journal d'Hervé Gardette, et ça va nous permettre de redistribuer les cartes aussi de notre réflexion. Avant le journal d'Hervé Gardette, vous mettiez très durement en cause Bernard Kouchner quant à la politique de complicité, disiez-vous, de compromis liés à des politiques humanitaires, disais-je, et vous insistiez bien sur la complicité. Complicité, si je vous ai bien compris, de crimes contre l'humanité. C'est une accusation très grave. Hein.
Ce que je dis, c'est... Alors, il faut être... en effet, comme c'est une accusation grave, il faut être clair. Moi, ce qui m'intéresse, ça n'est pas la personne de Bernard Kouchner. Je le dis dans mon livre. Je pense qu'il a eu les raisons qu'il a eues de faire ce qu'il a fait, et c'est son affaire. Il est secrétaire d'État à l'action humanitaire. Je m'interroge, en tant que citoyenne, sur la politique qui est menée par l'État français. Donc, je parle là de l'État français. Tout le monde sait que Mitterrand a eu longtemps des positions pro-serbes. Donc en fait, c'est pas un scoop ce que je dis. Simplement, je donne le détail. Et je montre en quoi, en effet, cette complicité, en quoi la politique humanitaire est venue servir de masque. À un moment donné, je dis ça de Kouchner, je dis que c'est pas le bras armé, mais que c'est le bras désarmant de Mitterrand. C'est-à-dire, il arrive... malheureusement, à cette place-là, pour dire « on fait ce qu'on peut ». Ça a été le discours de beaucoup de gens. « On a fait ce qu'on a pu ». Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on a agi, qu'il y avait d'autres politiques à mener, qu'on a choisi celle-là parce qu'en effet, Mitterrand était pro-serbe, et que cette politique-là est une politique grave. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles le TPI n'a pas retenu le crime contre la paix, parce qu'en effet, s'il fallait reconnaître, et moi je pense qu'il faudrait le reconnaître, si on reconnaissait l'agression de la Serbie, alors il faudrait se poser des questions sur ceux qui ont aidé la Serbie. Et on peut dire que les deux premières à aider la Serbie, c'est en effet la France et l'ONU. Parce que c'est l'ONU qui prononce l'embargo sur les armes, et qu'en prononçant l'embargo sur les armes en 91, qu'est-ce qu'on fait? On donne toutes les armes à la Serbie qui agresse, et on désarme de fait la Croatie et les Bosniaques musulmans. Donc, ça, c'est... Alors, dire, évidemment accuser l'ONU, vous imaginez bien que c'est pour le moment impossible. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à en rester là. Enfin, je veux dire qu'ils voudraient voir cette question soulevée, débattue et réglée de façon, je dirais, plus honnête par rapport aux gens qui sont victimes, parce qu'il est question de savoir de quoi les gens sont victimes.
Première question, Olivier Duhamel.
Non, excusez-moi, je crois qu'il y a un vrai problème sur l'usage abusif que vous faites de la notion de complicité contre, de crime contre l'humanité, parce que, bon, ici, par définition, nous sommes un lieu de débat, une table d'hôte contre, comme on disait, et donc tous les points de vue sont libres, mais vous ne pouvez pas mettre sur le même plan l'absence de politique de contra, l'absence de politique hostile à la Serbie, l'inactivité de la politique française, la passivité de la politique française, l'inexistence de l'Europe, les mauvais choix de l'ONU, avec de la complicité de crimes contre l'humanité. C'est comme si vous disiez, on a eu connaissance pendant la guerre, les Alliés ont eu connaissance des camps de concentration nazis, ils ne les ont pas dénoncés, ils n'ont pas une politique active contre, donc ils sont complices contre crimes contre l'humanité, et il faut revoir tous les procès de Nuremberg. On a la tête sans dessus dessous quand on va comme ça. Être complice de crimes contre l'humanité, c'était à y avoir une participation active. Ben, vous ne l'avez pas dit, mais Nicolas Demorand a repris sur, c'est une accusation très grave, et je ne vous ai pas entendu dire, mais il y a malentendu, je n'ai jamais prononcé cette accusation. Alors si vous la revenez dessus, c'est autre chose.
Oui, non, je maintiens qu'il y a une complicité par la politique d'agression. Dans la politique d'agression, au moment où la Serbie agresse, de fait, la politique que nous mettons en œuvre, ce sont des faits, j'en suis désolée, nous prononçons un embargo, nous vidons les territoires que les Serbes veulent conquérir, donc de fait, malheureusement, c'est une complicité à l'agression. L'agression, c'est pas encore le crime contre l'humanité. Je dis simplement que c'est à cette place-là que nous sommes en 1991. Et que toute l'hypocrisie de ce que nous mettons en œuvre à ce moment-là, mais je ne suis pas la seule à le dénoncer, Georges-Marie Chenu, qui est observateur européen à ce moment-là, écrit un article en disant qu'en effet, que font les humanitaires? Ils sont complices du nettoyage ethnique. Il y a énormément de gens sur le terrain qui sont très révoltés par ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met la chape de plomb de l'humanitaire pour nous donner bonne conscience et dire on ne peut pas faire autrement. C'est pas vrai. On pouvait parfaitement faire autrement, prendre d'autres décisions, et j'en donne d'ailleurs quelques éléments, puisque Mirko Germéc a en effet été convoqué au Quai d'Orsay avant, qu'on lui a demandé son avis, qu'on avait un certain nombre de préjugés. Donc j'essaye de comprendre, si vous voulez. Mon objectif, je vais vous dire, il faut être très clair. Une critique n'a pas lieu d'être si elle n'est pas constructive. Le seul intérêt de ma lecture, c'est que c'est une critique constructive. C'est-à-dire que, à partir de cette lecture-là, si vous admettez de reconnaître ce qu'a fait l'Europe, ce qu'a fait la France, ce qu'a fait l'ONU, alors vous pouvez commencer à faire un vrai travail. Et vous pouvez, je veux dire, moi j'ai fait des conférences à Zagreb là-dessus, j'ai été à Sarajevo, je sais que ce discours-là est perçu comme un discours absolument juste. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que la vérité de l'histoire, comme je dis, elle est quand même sans fond. Et elle est en général ignoble, malheureusement. Mais c'est juste, c'est perçu comme juste. À ce moment-là, on peut être entendu, on peut commencer un dialogue. Quand on a un double discours, ce qui est quand même malheureusement le cas, et le cas des diplomaties qui disent il faut tourner la page et maintenant on va construire, comment voulez-vous qu'une jeune génération qui a traversé ce qu'elle a traversé et qui est née dans quoi elle est née, comment voulez-vous que ces gens prennent en main leur destin et la politique de leur pays? C'est impossible.
Donc la France, Olivier. Donc la France, l'Europe, l'ONU n'ont pas engagé les politiques efficaces pour arrêter l'agression serbe et du coup après empêcher les crimes contre l'humanité. De la même manière que les démocraties occidentales n'avaient pas vis-à-vis d'Hitler engagé les politiques nécessaires pour réoccupation de la Ruhr, etc., etc., pour arrêter l'expansionnisme nazi. Mais ça n'est pas du tout la même chose qu'une complicité dans les crimes contre l'humanité accomplis après par Milosevic et ses sbires.
On démarrait sur la précision nécessaire, Louise Lambrix, des mots et des formulations, même pour
absolument.
Les écrivains. Donc vous êtes vous souscrivez à cette formulation de
Je ne souscris pas à l'impuissance et je l'ai dit dans mon livre, je ne souscris pas à cette idée qu'on a fait ce qu'on a pu, on pouvait faire autrement. On ne voulait pas savoir.
Oui.
On ne voulait pas savoir. Mitterrand avait en tête, et il l'a dit explicitement, les Serbes étaient de, les Croates étaient du côté de l'Allemagne nazie, pas la Serbie. C'était son schéma. Il avait dans l'idée que les Serbes avaient parfaitement le droit, et au fond c'était légitime, et il y a d'autres gens qui l'ont dit, que leurs aspirations étaient légitimes.
Donc vous dites qu'il n'y a pas simplement de la méconnaissance, il y a du déni.
Oui, absolument. Et il y a notamment le déni fondamental qui est au cœur de ça, qui a servi dans la propagande et qui est le déni de la politique de la Serbie pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Question Marc Kravets.
Louise Lambrix, ce que je comprends, non seulement ce que je comprends, mais ce que j'admets, même quand ça me choque, c'est la passion. Votre livre est un livre de passion et en ce sens, il est tout à fait estimable. Vous parlez d'ailleurs à un moment, je crois, pour qualifier l'ensemble du conflit, si je vous cite mal, il y a peut-être une nuance qui m'a échappé, vous parlez même clairement de Troisième Guerre mondiale dans les événements de...
Oui,
dans le conflit
de
l'ex-Yougoslavie.
J'évoque cette... Oui. Je dis répétition de la deuxième, en tout cas.
Je crois que le mot de Troisième Guerre mondiale est dans votre livre. Je vais très rapidement élargir le débat. À partir des années 70, vous avez eu une explosion dans le monde, pas seulement en ex-Yougoslavie, une explosion de conflits localisés qui ont tous, sans exception, été extraordinairement entre ignorés et maltraités et qui étaient, chacun à leur échelle, d'une extravagante violence. Ça commence par 15 ans de guerre libanaise qui, interne d'abord, même si 17 pays y sont impliqués, qui, on s'en aperçoit que trop aujourd'hui, y compris d'ailleurs pour le cas qui vous concerne, ont servi, c'est une expression qui a été employée, de laboratoire de toutes les guerres suivantes. Il est très intéressant de noter que la guerre du Liban s'arrête avec les guillemets de rigueur, je dirais, elle cesse. À un moment, elle s'enlise définitivement et on ne se bat plus, à peu près au moment où commence d'ailleurs la guerre en ex-Yougoslavie. Et du reste, à ce moment-là, une partie de l'armement de réserve, notamment du camp chrétien libanais, va dériver du côté de la Croatie. Les trafics d'armes vont s'alimenter à ce moment-là. Il y a, et j'en parle d'autant plus en face d'Olivier Duhamel, qu'il défend aujourd'hui de façon extrêmement convaincante la tentative par l'Europe de s'engager dans une politique active, positive, et de se donner une identité dans l'action. Voire avec un jour une politique étrangère et une politique de défense crédible. Il est clair que dans l'affaire de l'ex-Yougoslavie, l'Europe est non seulement aux abonnés absents, mais c'est l'ensemble de sa politique, que ce soit la politique allemande au début à l'égard de la Croatie, que ce soit ensuite la politique française à l'égard de la Serbie, où on a l'impression que chacun reprend les schémas des années 30 et va ensuite s'enliser dans des préjugés, faute en effet d'avoir une politique crédible. Et il va falloir attendre que les Américains s'en mêlent sérieusement pour, on en jugera peut-être après, pour en arriver à Dayton. Mon sentiment, et on pourrait élargir le débat à la question kurde, à la question libanaise, à la question de l'Azerbaïdjan et des Arméniens, qui sont toutes d'ailleurs identifient plus ou moins d'ailleurs la présence, à titre privé, à titre public et ensuite à titre international, de Bernard Kouchner. D'ailleurs, on va le retrouver à peu près dans tous ces schémas. Tous ces éléments sont traités, si j'ose dire, de manière insupportable, surtout vu aujourd'hui avec la distance. On se dit, mais quand on voit ce qui s'est passé, on aurait pu agir autrement. Là-dessus, on peut vous suivre. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est excessif aujourd'hui de reprendre le schéma qui pouvait être parfaitement acceptable dans les passions et la violence de l'époque, de le reprendre aujourd'hui avec si peu de distance? Moi, c'est ça qui me gêne en vous lisant, c'est qu'on a exactement comme... Moi, j'ai très peu travaillé sur ce sujet, j'ai plus travaillé sur d'autres où j'étais présent. On avait un peu le sentiment quand au tout début, quand j'ai commencé à travailler, puis ensuite j'ai cessé, en effet, donc je n'ai absolument pas votre compétence, et qu'on était précisément dans l'ex-Yougoslavie en train de continuer de solder ou de régler les comptes et les plaies non refermées de la Deuxième Guerre mondiale, mais à chaque fois on était dans des affaires localisées où personne n'avait envie d'entrer, plutôt que d'en faire une sorte de répétition à l'infini de ce que fut la Deuxième Guerre mondiale précisément.
Louise Lombrix.
C'est pas moi qui en fais ça. J'essaye d'analyser les discours et les propagandes qui ont fonctionné. Et ce que je trouve intéressant dans cette affaire-là, c'est que ça justement, ça nous permettrait d'en sortir. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est que les mêmes dénis... Si vous acceptez cet outil de pensée, c'est un outil de pensée. Hein. Les historiens nous bassinent depuis longtemps en nous parlant de répétition. Simplement, ils n'ont pas d'outils pour penser la répétition. Il se trouve que la psychanalyse en a. Et il se trouve, c'est vrai, que nous sommes dans une période où il est habituel de dire que la psychanalyse s'est dépassée. Eh ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je suis d'autant moins d'accord qu'il se trouve que cet outil-là, mais qui est aussi un outil littéraire, puisque je reviens en fait à Edgar Poe et que je pars de cette nouvelle qui est La lettre volée, qui est très intéressante et qui est un schéma absolument passionnant, qui est un outil de travail. Alors moi je dis, vous savez très bien que dans les Balkans, nous n'en sommes pas sortis, que la paix de Dayton est quasiment inapplicable, qu'au Kosovo c'est une paix qui n'existe quasiment pas, il y a une présence étrangère énorme, il n'y a pas de chacun au fond a des idées. Et quand on parle avec les responsables de l'ONU, ce qui m'est arrivé, et qu'on les pousse dans leur retranchement, ils finissent par, il y a un cynisme extraordinaire chez les responsables qui disent mais finalement l'ONU, vous attendez beaucoup trop de l'ONU, l'ONU ça nous représente. Bon, moi je fais une proposition de travail. Je fais une proposition de travail pour la génération qui a 20 ans aujourd'hui, qui a entre 20 et 25 ans. Je dis que l'Europe a des responsabilités très importantes dans ce qui s'est passé là-bas, qu'il n'est pas question de dire que c'est simplement une affaire de belligérants locaux. Nos responsabilités, nous devons les prendre et nous devons travailler avec eux. Nous devons travailler avec la jeune génération croate, musulmane et serbe, celle qui acceptera d'ouvrir les archives et de remettre en cause leurs mythes nationaux, parce que sinon, ça recommencera. Ça, maintenant, c'est très clair. Et on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. Parce que moi, c'est quand même ça, ma question. Hein ? Qui savait, qui ne savait pas. Eh bien, je crois que c'est la question de toute ma génération. Aujourd'hui, on sait, on connaît le mécanisme et on sait ce qu'il faut faire pour essayer de l'enrayer. Je ne dis pas qu'on y arrivera, je ne suis pas d'un optimisme béat. Mais au moins, il faut être conséquent. Et pour le moment, je n'entends rien qui permette, par exemple, le fait qu'il n'y ait aucune réaction et qu'aucun média ne relaye la nouvelle que je vous ai donnée il y a 15 jours. On met les collaborateurs au même rang que les résistants, parce qu'on sait très bien que les Tchétniks ont combattu les partisans jusqu'au dernier moment, et en effet, au dernier moment, ils ont rejoint les camps des partisans. Eh bien, tant qu'on ne fait pas la lumière sur cette histoire, et tant que les Tchétniks passent pour des héros nationaux, malheureusement, on n'aura pas la paix dans les Balkans.
Marc ?
Là, je vous suivrai plus volontiers, à ceci près que c'est pas un phénomène totalement propre à la Yougoslavie, avec d'autres incidences. Dans pratiquement tous les pays d'Europe centrale, il y a eu en effet deux types de réactions, dont une seule d'ailleurs de réaction ou de résistance, quelle qu'en soit par ailleurs, je ne la qualifie pas plus positivement que ça, je me contente d'employer un terme courant. Quel que soit donc le jugement ultérieur de l'histoire, l'une qui était à caractère nationaliste, qui a été balayée d'une manière ou d'une autre, c'est la même chose en Pologne avec le gouvernement de Londres, face aux communistes, qui ont triomphé par les moyens qu'on sait, entre 1946 ou 1948, jusqu'à Prague. Donc,
est-ce que je peux vous interrompre là-dessus ?
Oui, bien sûr.
Il y a deux... stratégie, on va dire, dans la recherche et dans la réflexion. Il y a une stratégie, on va dire, longitudinale qui est ce qu'on entend le plus souvent, c'est-à-dire les comparaisons, alors c'est comme ça, le Liban, la Yougoslavie, etc., puis finalement, personne ne comprend ce qui s'est passé. Moi, j'ai eu une autre stratégie. Au fond, ça a été de creuser ce sillon-là pendant 15 ans. Au fond, je ne m'estime pas compétente pour être sur des terrains qui ne sont pas les miens. L'intérêt de cette lecture, encore une fois, c'est de dire, moi je parle à partir de ma place qui est en France, avec un mélange d'origines assez varié qui fait de moi quelqu'un, enfin j'estime que je suis très européenne, je suis à cette place-là avec des liens du côté serbe, des liens du côté croate, donc toutes les raisons de m'intéresser à ça de très près. Et c'est dans cette analyse de très près, d'ailleurs je dis à un moment donné que ce qui est intéressant, c'est le cas d'école, c'est-à-dire au fond, je m'intéresse à ça, mais je m'y intéresse pour le creuser et pour dire, ah ben oui, peut-être que ce modèle-là, ça pourrait servir à d'autres. Mais aux autres de s'en emparer, aux autres d'essayer d'analyser en Israël, par exemple. Moi, je ne suis pas compétente. Je n'ai pas été élevée en Israël. Je ne sais pas ce qu'on apprend à l'école en Israël. Je ne sais pas sur quel déni est fondé l'enseignement de l'histoire. Je sais ce qu'il en est, en revanche, de l'enseignement en France. Moi, ma première question, c'est pourquoi je n'ai jamais rien compris aux guerres balkaniques. C'est bien, en effet, parce qu'elles sont enseignées comme elles sont enseignées. Donc,
on vous suit parfaitement.
En 90, quand ça commence,
il y a 15 jours, Paul Gard essayait.
Voilà. Mais on est tout à fait d'accord. Choses. D'ailleurs, on a eu des grands échanges avec Paul Gard et j'ai été. On peut discuter sur certains
mais
détails.
La question posée, Marc, est tout de même très importante. Si on rentre dans une démarche comparatiste, comparative, à l'aune de quoi on compare conflit local ignoré comme il y en eut tant dans le monde avant ou Seconde Guerre mondiale. Est importante.
Le temps n'est pas. Moi, je pense que c'est intéressant d'essayer de le faire par rapport au temps du pays, c'est-à-dire en remontant, disons, une ou deux générations. Quelle est la mémoire du pays? Quels sont les dénis? Qu'est-ce qu'on sait en vérité et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que je pense qu'au fond, nous sommes les produits d'une histoire et les résultats de cette histoire et les symptômes de cette histoire. Donc, on ne peut avancer dans chaque localité, dans chaque pays, qu'à partir d'une réflexion autour de ça et d'une remise en cause, éventuellement, des versions mythologiques, instrumentalisées par les politiques, etc. L'instrumentalisation de l'histoire par les politiques, c'est quand même insupportable. Et ça continue, c'est ça que je veux dire. On ne peut plus continuer à admettre ça. On ne peut pas parler de devoir de mémoire en permanence et continuer à instrumentaliser l'histoire. Je veux dire, là, il y a un double discours que je trouve très insupportable. Donc, en effet, la mémoire, mais c'est celle que nous avons vécue il y a 15 ans. C'est passé d'il y a 100 ans.
Nous ne verrons jamais Vukovar aux éditions Philippe Rey. Louise Lambrix, merci d'être venue aujourd'hui dans les matins de France Culture. Il y a des prolongements à votre livre sur Internet, je crois, un dispositif assez étonnant, éditorial papier, éditorial numérique.
Oui, parce que la revue Inventaire Invention, qui est dirigée par Patrick Cahuzac, avait publié donc la première partie de ce texte sous le titre « Le cas Hank ». Et donc, il est partenaire de cette édition. Et donc, nous avons décidé, au fond, d'utiliser ce média pour prolonger la discussion, apporter d'autres éléments bibliographiques. Enfin, poursuivre, au fond, en effet, faire de ce débat un débat vivant.
Et on n'a fait qu'en explorer que de très partiels aspects, ce matin. 500 pages pour nous ne verrons jamais Vukovar. Et livre de réflexion, on n'a pas parlé notamment de ces questions d'écriture parce que c'est un livre extrêmement écrit, ça n'est pas une enquête journalistique ou un essai
d'histoire. Oui, c'est une forme très particulière, oui.
Merci encore. Hélène Simonetti, c'est le nom aujourd'hui, Marc, du portrait du jour.
Oui, on va là vraiment changer de sujet. Hélène Simonetti est hôtesse de l'air, du moins elle l'était, on va y revenir. Elle a 30 ans, elle est blonde, elle mesure 1m83, elle vit à Austin, capitale de l'État du Texas. Elle a passé de la nuit de la Saint-Sylvestre avec quelques amis des deux sexes, une nuit particulièrement arrosée. Elle semble une spécialiste de la préparation du lemon drop martini et du citron, de la vodka, du sucre et des glaçons. On sait qu'elle a fini la nuit vers 4h30 du matin avant de retrouver son ami Jerry vers 3h de l'après-midi pour un repas Tex-Mex du Nouvel An. L'an dernier, à la même époque, elle était à Lima, capitale du Pérou, entre deux vols. Elle n'oublie pas ses amis dans le monde. Juste avant les fêtes, elle a adressé un chèque de $25 à la Croix-Rouge pour les victimes du tsunami. Elle aurait aimé faire plus, mais elle n'en a pas les moyens. Voilà. Vous allez être un peu surpris par cette abondance de détails. Et qu'est-ce que ça vient faire ici? Parce que tout cela et bien d'autres choses encore. C'est évidemment Hélène Simonetti qui le raconte sur son journal en ligne. Alors, journal en ligne, c'est un mot désormais désuet. C'est ce qu'on appelle un blog. Son nom y figure en toutes lettres, un nom largement connu depuis que journaux et magazines imprimés, surtout aux États-Unis, enfin d'abord, mais aussi radio et télévision, ont parlé de son histoire. Et auparavant, son blog était signé La Reine du Ciel, ou plus exactement Queen of Sky. C'est toujours sous ce nom du reste qu'on le trouve sur l'Internet. Et c'est ainsi, ou c'est plutôt à cause de, si l'on préfère, que tout a commencé avant de se mal terminer. Alors, l'affaire commence à l'automne dernier, le 25 septembre pour être précis, à la veille d'un vol d'Hélène Simonetti pour Rome. Mais on va reprendre dans l'ordre. Alors Hélène, ou plutôt la Reine du Ciel, publiait depuis le mois de janvier son journal d'une hôtesse de l'air, un mélange d'anecdotes vécues et d'histoires plus ou moins inventées, illustrées, de quelques photos, dont celle de l'hôtesse en uniforme. Alors, rien que de très innocent en apparence, sauf que le 25 septembre, son superviseur, alors j'ai oublié de dire que Len Simonetti travaille alors pour la compagnie aérienne très importante, basée à Atlanta, qui s'appelle Delta Airlines, donc son superviseur l'informe qu'il n'y aura pas, pour elle en tout cas, de vol pour Rome, qu'elle est suspendue au motif d'avoir diffusé publiquement des photos, entre guillemets, et c'est un terme américain très usuel dans ce genre de situation, inapproprié. Alors qu'on ne se méprenne pas, pour le peu de photos que j'ai pu voir, parce que la plupart ont été retirées de l'internet, il n'y a rien qui puisse recommander d'éloigner les enfants de l'écran, mais quand même, l'hôtesse qui pose dans son uniforme bleu ciel n'a pas exactement l'attitude ou le sourire de commande des publicités de la compagnie ou d'autres. Alors quoi qu'il en soit, Hélène Simonetti dépose une plainte alors pour une discrimination contre Delta Airlines, dont la réponse sera le 29 octobre 2004, licenciement immédiat. Alors si les photos inappropriées, entre guillemets bien sûr, demeurent le motif officiel de la compagnie, pour Hélène Simonetti et ceux et celles qui la soutiennent, c'est le fait même qu'une employée de Delta ait osé diffuser son journal sur la toile qui est ainsi sanctionnée, la chasse aux blogs ou aux bloggers est ouverte. Alors Hélène n'est pas la première victime sociale de la blogosphère. Une assistante parlementaire à Washington, un spécialiste de site web dans une entreprise de l'Utah, je ne parle ici que des États-Unis, ont été licenciés par leurs employeurs respectifs pour des faute professionnelle ou prétendue telle relative à la publication de blogs. Ce ne sont là que les cas qui ont reçu une certaine publicité. Il y en aurait beaucoup d'autres, paraît-il. Alors, d'autres entreprises, en revanche, notamment dans les secteurs des technologies de pointe, laissent favoriser l'expression libre de leurs salariés bloggers en espérant tirer probablement un effet positif pour leur image. Le débat sur le sujet ne fait que commencer, mais assurément, le phénomène semble impossible à endiguer. Si le mot blog date de 1999, le développement des blogs est lui plus ou moins contemporain du déclenchement de la guerre en Irak, en partie du reste, on l'a un peu oublié, à l'initiative des partisans de la guerre justement, avant d'être le mode d'expression favori de ses adversaires. La politique s'en est ensuite emparée, avec les débuts de la campagne primaire du Parti démocrate américain, Howard Dean, qui fut, on s'en souvient peut-être, le candidat qu'on pensait pratiquement invincible, il en fut le héros avant de devoir lâcher prise. Pro et anti-Bush se sont affrontés par blogs interposés au point qu'on a pu dire, non sans raison, que de la campagne 2004, qu'elle fut largement animée par les blogueurs. Alors les blogs se comptent désormais par millions, du journal intime à la réflexion de très haut niveau, rien ne semble désormais échapper à ce nouveau médium à la portée de tous ou presque, libéré des contraintes et des règles des médias traditionnels, capable du pire dans la manipulation de l'opinion, mais aussi du meilleur dans la production de l'information. La Columbia Review of Journalism, référence s'il en est pour les journalistes américains et même au-delà, leur consacre désormais une chronique régulière, et pour ne prendre qu'un exemple, on ne pourrait plus suivre aujourd'hui et correctement la situation en Irak et ses répercussions aux États-Unis sans une lecture attentive de blogs, dont certains produits par les correspondants de journaux éminents. Alors le dictionnaire Merriam-Webster, qui lui aussi fait référence, a déclaré le mot blog mot de l'année 2004, et il s'en fallut de peu que Time Magazine ne fasse du blogueur la personne de l'année avant de lui préférer, comme on sait, le président Bush. Hélène Simonetti est loin d'être isolée. D'ailleurs, j'ajoute que sur à peu près 4 millions de blogs, c'est une étude universitaire citée par Time Magazine qui le dit, sur 4 millions de blogs, 56% seraient à l'initiative de femmes. Vous ne m'avez pas posé la question, je finirai avec elle. D'où ça vient ce mot ? Ce mot ne veut rien dire, c'est une abréviation de weblog, web qui veut dire toile, log.